affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Ce matin, pour me rendre au studio, j'ai pris le train. J'ai observé la gare d'Avignon et je me suis demandé si elle était belle. J'ai pris place dans le train, j'ai observé les personnes qui me faisaient face, car j'étais dans une place qu'on appelle en carré, et j'avais tout le temps pour observer les personnes en vis-à-vis. J'ai trouvé que l'une était gracile et gracieuse, c'était une vieille dame qui semblait tout droit sorti d'un roman d'Agatha Christie. Puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des paysages de campagne, puis de faubourg, et j'ai constaté que les deux m'avaient également touché. Puis, dans la gare de Lyon, arrivant à Paris, j'ai observé des visages affichés sur les murs. C'était des visages de jeunes gens photographiés dans le cadre d'un projet visant à présenter la diversité de la jeunesse de France. À chaque fois, une même question m'a assailli. Elle tournait autour de la beauté. La gare était-elle belle? Les visages étaient-ils beaux? Les paysages étaient-ils beaux? Lesquels me touchaient? Cela suffit certainement à souligner l'importance de la beauté pour nous humains. Mais cette fois, je ne m'en suis pas tenu à cette réflexion-là. Je me suis demandé pourquoi je trouvais ceci beau et cela moins. Je me suis demandé s'il y avait une conception universelle du beau. Après tout, pourquoi mon voisin dans le train ne pensait-il pas comme moi, éventuellement, que cette vieille dame était la plus belle autour de nous. Toutes ces questions ne m'ont pas assailli par hasard, mais parce que dans les jours précédant cette émission, pour la préparer, je me suis plongé dans un ouvrage intitulé « La beauté dans le cerveau », un ouvrage écrit par Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, il est aussi amateur d'art, il s'est penché de longues années, c'est un peu un fil rouge dans sa carrière, je crois, de confronter les émotions, la raison et la façon dont l'art et la beauté peuvent mobiliser ceci dans notre cerveau. Et il vient de publier un ouvrage justement intitulé « La beauté dans le cerveau » et nous avons la chance de le recevoir dans notre studio pour répondre à ces questions que je me posais, que nous nous posons tous, sur cette chose qui finalement rend la vie plus belle, justement, la beauté et la façon dont elle se développe et dont nous l'envisageons dans notre cerveau. Jean-Pierre Changeux, bonjour. J'ai oublié de dire que, bien sûr, vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, et vous allez donc nous éclairer autour de tout cela, la beauté, le cerveau, l'interaction entre l'art et nos émotions et la raison. Merci d'être parmi nous. Ma première question, monsieur, porte justement en premier niveau sur cette importance de la beauté dans nos vies. Pourquoi nous touche-t-elle et pourquoi est-elle si présente, fût-ce lors d'actes aussi banals que prendre le train ou traverser une gare?
Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous et de débattre sur ce livre et son contenu, « La beauté dans le cerveau », qui est publié chez Odile Jacob, et qui est une sorte de recueil de réflexions que j'ai eues au cours des dernières années, précisément sur la relation entre notre activité cérébrale et l'art. Parce que la question que vous posez demande une définition, définir le beau. Et je dois vous dire que si vous lisez l'encyclopédie Diderot, Diderot mentionne le fait que tout le monde se réfère à la beauté, mais personne ne la définit réellement en des termes précis. Donc pour moi, c'est déjà une première question importante. Et ce que je voudrais dire, c'est que je n'aime pas tellement le mot beau par lui-même, mais je préférais parler d'œuvre d'art. Qu'est-ce qui distingue une œuvre d'art de ce qui est un objet de la vie courante. Et dans la définition que vous avez mentionnée, ou du moins l'usage du mot beauté, vous incluez un certain nombre de sujets, d'objets qui n'entrent pas nécessairement dans la définition d'une œuvre d'art. C'est-à-dire que vous avez parlé, par exemple, de la gare de Lyon, qui a certainement une architecture, une décoration très intéressante, que je peux considérer comme faisant partie d'une œuvre d'art. Et vous avez parlé d'une personne âgée ou d'un paysage. Pour ma part, je fais une distinction entre ce qui est une œuvre d'art proprement dite, c'est-à-dire une création humaine, un artefact, comme certains veulent bien le dire, qui donc est d'emblée hors de la nature, si j'ose dire. C'est une construction faite par le cerveau des hommes et qui distingue en quelque sorte une réalité ordinaire, si j'ose dire, de ce qui est un objet de contemplation singulier qui est l'œuvre d'art. Donc le fait de dire c'est une jolie femme ou ce paysage est beau, pour moi, ne me convainc pas en ce qui concerne la définition de l'œuvre d'art qui est celle qui m'intéresse à travers ce livre. Donc, pourquoi séparer l'œuvre d'art de l'environnement qui nous est quotidien? Simplement parce que cette création, au fond, le neurobiologiste peut essayer de s'y intéresser et de montrer ce qu'il y a de singulier. Et je crois que à cet égard, disons, on retrouve dans l'œuvre d'art quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs autour de nous. Et il y a un premier trait qui est très important, qui est l'originalité. Une œuvre d'art est singulière et elle ne se trouve pas répétée de multiples exemplaires. Ce n'est pas comme une bouteille d'eau minérale ou une tasse de café. Il y a quelque chose d'original et de singulier propre à l'auteur qui le caractérise. Il y a un autre trait qui est très important, c'est que quand on regarde une œuvre d'art comme un tableau de Matisse, une sculpture de Giacometti ou même une sculpture de Louise Bourgeois, tout de suite, on se rend compte qu'il y a dans cette création la notion de composition. Et c'est-à-dire que ce qui fait partie justement de cette originalité, c'est le fait que dans cette création proprement humaine, le cerveau de l'artiste va très clairement essayer de suivre une loi qui est en général très implicite mais très universelle, c'est l'accord des parties avec le tout.
On revient à Diderot, là.
Oui, Diderot, lui, parle de perception des rapports, des relations, et je crois que ça reste pour moi très universel. Si vous regardez une toile de Rothko qui est très abstraite, ou un Kandinsky qui est aussi très abstrait, visiblement, il y a quelque chose, quand vous regardez, qui vous dit, mais il y a une régularité, il y a une organisation qui fait que cette façon de faire les choses ne se retrouve pas dans la nature. Et l'autre aspect, c'est que dans une œuvre d'art, il y a plus simplement que le côté perceptif, sensoriel. Hein. On peut parler, on écoute des sons musicaux, on regarde on contemple une œuvre d'art, mais il y a une signification, il y a un sens. C'est-à-dire que il y a un pouvoir évocateur de l'œuvre d'art qui fait qu'il n'y a pas simplement la forme, mais il y a aussi quelque chose de plus. Guernica est l'exemple le plus caractéristique d'une œuvre qui a un message à transmettre, qui est au fond l'horreur de la guerre et le souhait de défendre une cause qui met avant tout la solidarité humaine dans le cadre de Picasso. Vous avez aussi Matisse qui dit ben, l'art est comme un bon fauteuil, il apporte un repos. L'ensemble des choses, il y en a plusieurs autres qu'on pourrait citer aussi, fait que il y a globalement dans une œuvre d'art un ensemble de propriétés uniques qui touchent le sujet à la fois par ce que je viens de décrire, mais aussi par le fait qu'il évoque une émotion. Donc, et cette émotion est singulière. L'émotion que vous recevez devant chaque œuvre d'art, vous ne la trouvez pas devant une autre œuvre d'art, et encore moins, selon moi, dans un paysage ou un visage. Alors, si vous référez à des photographies, c'est évidemment un choix. Il y a une sélection dans la photographie, par exemple, de visages. Et si on les réunit pour que l'ensemble ait un sens, hein, et porte un message. Essayez de décrire, une participation plus grande à une action civique quelconque. Vous avez aussi les moyens par l'œuvre d'art de véhiculer une vision du monde, une conception du monde que l'artiste a et veut vous transmettre. Bon, j'ai parlé déjà de Guernica, mais on pourrait le dire pour Poussin, on pourrait le dire pour Philippe de Champaigne. Tous les artistes du XVIIe siècle qui sont intéressés à la peinture d'histoire, et même les artistes contemporains, il y a toujours cette manière, par la raison et les émotions, et je dirais même par la relation entre raison et émotion, on confère un mode de communication qui se situe entre l'artiste et le spectateur ou l'auditeur. C'est-à-dire l'artiste communique, et il faut voir l'art comme un système de communication entre êtres humains. Et pour moi, ce système de communication fait partie de la vie courante, quotidienne. Pour moi, vous l'avez mentionné, ça je vais tout à fait dans votre sens, et il y a une contribution de l'art à tous les niveaux. Quand vous parlez de cette vieille femme qui vous paraît... En fait, ce qu'il faut dire, c'est pas simplement que c'est une femme, qu'elle a un visage, mais qu'elle est habillée, qu'elle a une manière de s'exprimer, qu'elle a une présence qui la singularise en quelque sorte et qui participe de ce mode de communication. Et avant de clore un petit peu ce chapitre, ce que je voudrais dire, c'est que l'art se retrouve très précocement aux origines de l'humanité. Comme vous le savez, il y a 40 000 ans, c'est vrai que les premiers témoignages sur l'Homo sapiens, c'est 100, 150 000 ans, mais dès la grotte Chauvet ou Lascaux, on a des œuvres d'art qui sont ces peintures murales qui correspondent à ce que nous entendons aujourd'hui par une œuvre d'art. Et elles n'ont rien à céder aux grandes œuvres contemporaines. Et donc on peut dire que l'humanité, très tôt, s'est intéressée à la création d'œuvres d'art. C'était peut-être pas pris dans le sens d'œuvres d'art que nous avons, nous, mais disons qu'une activité esthétique qui participe, je dirais, à l'activité collective des êtres humains, je dirais même une coopération entre êtres humains, vous l'avez très précocement. Donc, pour moi, c'est une partie intégrante de l'homme et surtout de l'humanité, dans le sens où, je dirais, mis à part quelques productions par des non-humains, que l'art est un trait fondamental de l'espèce humaine en tant qu'humanité collective et possédant donc une singularité culturelle que les autres espèces animales n'ont pas.
Dans votre propos, vous avez distingué, pour les rassembler ensuite, le rôle de l'émotion et celui de la raison,
oui,
face à une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous caractériser, fût-ce un peu artificiellement, les séparant d'abord, l'une et l'autre? Que se produit-il dans le cerveau, en termes émotifs et ensuite de raison? Est-ce que c'est entremêlé? Est-ce que c'est successif?
Justement, ce qui est intéressant, et ça a été ma conclusion à ce stade, de reprendre enfin Schiller et la définition de l'harmonie entre, ou de la réconciliation entre la raison et les émotions. Bon. Sur le plan concret, prenons une peinture, contemplation d'une œuvre d'art, allons en face au musée du Louvre, et puis regardons par exemple un tableau de Valentin de Boulogne. Il y a une exposition en ce moment qui est très intéressante sur ce peintre. Bon, d'abord, on se trouve confronté à un tableau. C'est une peinture, c'est-à-dire que c'est une surface sur laquelle des couleurs sont réparties et qui sont réparties de manière évidemment très sélective et qui va couvrir des formes, hein, des habits ou des visages, et que ces figures qui ont donc une forme vont s'assembler entre elles, vont composer le tableau. Nous avons là, lorsque nous le regardons simplement, une perception sensorielle visuelle. Donc c'est un phénomène, je dirais, physiologique qui se produit aussi bien pour un tableau que pour les micros que j'ai en face de moi. Donc c'est un phénomène extrêmement courant qui est très important pour l'espèce humaine, qui est très visuel dans sa physiologie, sa vie sociale et aussi son fonctionnement cérébral. Et il y a des aires spécialisées qui interviennent dans cette perception, qui vont de l'œil, enfin nerf optique au thalamus, et puis au cortex cérébral. Et il y a toute une série d'aires, essentiellement corticales, qui interviennent dans, en quelque sorte, l'analyse de cette surface colorée, quelle qu'elle soit. Et cette analyse donc procède d'une perception globale. Vous avez, par exemple, sur le cortex visuel V1, des moyens de faire une cartographie des cellules nerveuses globales activées par exemple, même... un objet très simple comme une croix, un cercle, un carré. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut retrouver cette image, en quelque sorte, qui passe de l'objet physique à la rétine et au cortex visuel. Donc il y a un transfert d'informations qui passe par les cellules nerveuses de la rétine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cellules nerveuses, il y a des molécules qui sont sensibles aux radiations lumineuses, comme la rhodopsine et les opsines qui sont sensibles à certains spectres de longueur d'onde, de telle sorte que tout ce qui passe dans notre cerveau, tout ce que nous regardons, hein, que ce soit depuis une cuillère à la chapelle Sixtine de Michel-Ange, tout ça passe par des transitions moléculaires qui sont des transitions allostériques, c'est un terme qu'il faut connaître, et qui permettent donc de passer des signaux physiques à un signal électrique. Donc il faut que nous ayons conscience, en quelque sorte, que dans cette perception de l'œuvre d'art, on passe par des étapes qui sont strictement physico-chimiques, et que tout le reste va se suivre comme ça. C'est à la base. Alors, une fois qu'on est dans le cortex visuel primaire, par exemple, j'ai dit qu'on retrouvait cette forme. Il y a une sorte d'isomorphisme entre le tableau et l'entrée dans le cerveau. Et ça, c'est intéressant parce que on se demande toujours comment ça fait pour entrer, en quelque sorte. Et, si vous voulez, l'information est conservée, les relations, point par point, se retrouvent là. Et alors, ensuite, comme j'avais commencé à le dire, il y a une analyse progressive qui se fait pour distinguer la couleur, la forme, le mouvement, le contraste, etc. Et certaines aires sont spécialisées dans chacune de ces diverses fonctions. Et cela, ça se fait progressivement dans les aires visuelles secondaires. Et on arrive, en montant en quelque sorte, au niveau du cortex temporoparietal. Et là, arrive la distinction entre formes différentes, comme par exemple la reconnaissance des visages, des mains, et leur l'emplacement, leur localisation. Et dès ce stade-là, il y a déjà, dans cette identification, par exemple, c'est un visage, tout de suite une signification émotionnelle qui arrive, qui apparaît, qui se trouve associée, en quelque sorte, avec la reconnaissance de l'image. Alors tout ça peut se faire, d'ailleurs, de manière relativement non consciente. Et puis progressivement, en arrivant au niveau du cortex préfrontal, ces diverses formes qui ont déjà commencé à être distinguées vont se rassembler et vont s'enrichir dans la signification, hein, puisque ce sont en quelque sorte des éléments individuels qui vont se rassembler entre eux. Et aussi, les mémoires émotionnelles qui y sont associées vont se retrouver. Donc il y a quelque chose de très, très unique et très singulier dans cette synthèse mentale qui va se produire et qui va devenir consciente en arrivant au niveau de l'espace de travail conscient et au niveau du cortex préfrontal, et reconstituer une image qui va avoir en plus, je dirais, de sa dimension de ressemblance avec l'objet physique lui-même, d'avoir une dimension bien supérieure qui est une dimension émotionnelle et qui contient un aspect socio-culturel très important. Donc, si vous voulez, la physiologie neuronale, en fait, nous montre que dans l'œuvre d'art, il y a quelque chose de plus que simplement des taches de peinture et des formes. Il y a un sens. Et ce sens apparaît au niveau de l'accès à la conscience. Et c'est pour ça que je dirais que ce qui va caractériser l'œuvre d'art, c'est une ignition, c'est-à-dire un embrasement de notre espace conscient, un embrasement singulier qui va signer en quelque sorte l'œuvre d'art et qui, dans cet embrasement, va non seulement associer ce qui peut paraître des objets raisonnables, des formes raisonnables, et les émotions. Et cet embrasement peut être tel qu'il va affecter toute la physiologie de l'individu. Je me rappelle avoir visité la salle où se trouve la Victoire de Samothrace avec Roger Guillemin, qui est prix Nobel, qui est ami proche. Et lorsqu'on est arrivé à l'entrée de cette salle et vu la Victoire de Samothrace, il s'est mis à pleurer. Et il ne pouvait plus résister, tellement l'effet émotionnel était important sur sa propre physiologie. Donc voilà, on est, si vous voulez, dans une mise en relation entre ce qu'est, simplement d'une manière très banale, une juxtaposition de colorants, de couleurs et de formes, et la signification profonde de l'œuvre d'art qui, chez l'homme, et chez l'homme dans son espace conscient, va correspondre à une activité physiologique particulière. Donc, pour moi, la définition de l'œuvre d'art inclut, si vous voulez, un paramètre physiologique de notre activité cérébrale.
Oui, dans l'ouvrage, vous citez également l'émotion de Stendhal lors de l'un de ses multiples voyages en Italie.
Je n'ai pas voulu mentionner Stendhal parce que chacun connaît.
Mais... Ah non, moi j'ai découvert dans votre ouvrage.
Ah bon?
Non, je connaissais Stendhal, mais pas l'émotion.
C'est ce qu'on appelle l'effet Stendhal.
Ah oui, mais écoutez, vous me l'apprenez, j'espère que vous l'apprenez aussi aux auditeurs, sinon ils vont me prendre pour un des morts. en la matière, mais...
Non, mais c'est justement la référence que l'on utilise, mais qui n'est pas, si vous voulez, nécessairement nécessaire, qui n'est pas nécessaire à la contemplation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on peut être très ému sans nécessairement perdre son équilibre et être obligé de s'asseoir... Parce que, je dirais même perdre conscience devant une œuvre d'art. Mais ça signifie simplement l'importance de la composante émotionnelle dans la relation à l'œuvre d'art.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on sent que ça commence par quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion immédiate. On passe à un second stade qui est celui de la raison, mais qui vient nourrir en retour...
Oui, enfin, je dirais que le mot « raison » est peut-être une simplification, parce que ce qui est intéressant, justement, là, c'est que nous avons une intrication très intéressante entre ce qui peut être considéré comme quelque chose de logique et qui fait partie de l'œuvre d'art. On parle de la règle d'or, ou on parle de ce genre de choses. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas vrai, parce que l'intrication avec l'aspect émotionnel est très précoce. Comme je disais, dès qu'on commence à reconnaître des formes dans notre cerveau, elles prennent tout de suite un aspect signifiant et une signification qui apparaît. On ne peut pas avoir un cerveau qui fonctionne d'une manière totalement abstraite et formelle, même chez les mathématiciens. Il y a toujours une composante émotionnelle qui apparaît et je pense qu'à cet égard, ce clivage entre raison et émotion, justement, tend à disparaître en ce qui concerne l'œuvre d'art, parce que c'est cette synthèse entre raison et émotion qui la caractérise.
Et donc, vous me disiez en réponse à ma naïve introduction qu'il s'agisse avant tout d'œuvres d'art, mais vous faites de longs développements aussi sur la beauté des raisonnements scientifiques, des équations.
Absolument.
Vous plaidez pour une réconciliation de la démarche artistique et de la méthode scientifique. Expliquez-nous cela. Même si dans ce studio, ici même, des mathématiciens de l'Académie des sciences, vos confrères, m'ont parlé d'une équation comme d'une belle femme. Hein, c'est-à-dire, avec les yeux qui brillaient.
C'est leur problème.
Ah non, mais ils vont dans votre sens.
Je pense que cet aspect-là a été bien discuté. D'ailleurs, dans le premier chapitre du livre, la question est posée. Et je pense qu'il y a des points communs. Et déjà, Adamar, au Poincaré, avait fait intervenir une composante esthétique, non pas tellement dans les mathématiques en tant que telles, mais dans la découverte mathématique. En ce sens, on peut proposer des modèles communs, une sorte de modèle commun pour la création artistique, qui n'est pas simplement la contemplation de l'œuvre d'art. Je pense qu'on peut avoir un plaisir esthétique à contempler une belle équation. Mais tant Poincaré que Adamar font intervenir cet aspect esthétique, surtout dans la créativité mathématique et la découverte de la solution qui va répondre à la problématique.
C'est ça qui est formidable, si je comprends bien, ils ont d'abord une sorte d'intuition, d'illumination, qu'il s'agit ensuite de venir vérifier.
Alors, ce n'est pas simplement ça, ça fait partie effectivement du processus. Mais ce que je veux dire, pour moi, j'ai un modèle plus général, si vous voulez, qui est un peu ce que vous venez de dire, qui est un modèle darwinien. En ce sens que la proposition qui est faite, c'est que nous avons dans notre cerveau constamment et de manière spontanée des représentations qui se présentent. Si vous voulez, par exemple, quand vous me regardez, moi-même, je réagis à votre regard. Et j'ai les activités spontanées dans mon cerveau qui me disent qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, quel type de réponse je vais avoir. Donc, si vous voulez, il y a déjà une variabilité des représentations qui se forment dans notre cerveau qui est très importante et qui sont proches de ce qu'on appellerait des variations darwiniennes. Pour Darwin, ce n'était pas des assemblées de neurones, c'était des gènes, enfin, le concept n'était pas aussi bien défini qu'aujourd'hui, enfin, des prédispositions génétiques qui pouvaient exister. Lui parlait surtout des animaux d'élevage, si vous voulez, mais qui varient donc d'une lignée à une autre et qui sont donc diverses. Et ensuite, il y a un processus de sélection qui intervient. Et pour le darwinisme traditionnel, si vous voulez, c'est la persistance de l'espèce et plus ou moins la survie du plus fort, enfin bon, la lutte pour l'existence et sa survie. Et puis ensuite, évidemment, la propagation qui va suivre la sélection. Je pense que dans le cerveau, c'est évidemment une métaphore, mais on peut dire qu'il y a une variabilité non plus au niveau génétique, mais épigénétique, au niveau de ce qui se passe dans notre cerveau spontanément dans les situations que j'ai essayé de définir, quand un problème est posé. Et puis, il va y avoir, une résolution de problème. Et parmi ces multiples variations, comme le décrit très bien Poincaré, il peut, en allant à droite ou à gauche, j'en ai aussi parlé avec Alain Cohn, on avait fait un livre là-dessus, on peut passer par des chemins de traverse, avoir un effet de l'environnement. Subitement, il y a une combinaison qui répond à la question posée. Et donc, ce côté imprévu, recherché, mais imprévu, parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. D'ailleurs, les mathématiciens insistent beaucoup sur ce qu'ils ont découvert, mais pas sur ce qu'ils n'ont pas découvert. Et pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que toutes les étapes qui ont précédé la découverte d'un concept ou l'imagination d'un concept, qui n'ont pas réussi, et qui témoignent dans cet aspect, mais qui existent, il faut quand même qu'ils le disent, et qui existent pendant parfois des dizaines, des centaines d'années, où on a recherché la solution d'un problème, on ne l'a pas trouvé. Et alors, le fait que cette coïncidence marche si bien, si vous voulez, crée tout de suite un choc émotionnel. Et c'est dans cette relation, en quelque sorte, qu'il considère qu'il y a un aspect esthétique. Le choix se fait. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé chez ces éminents mathématiciens de définition du mot esthétique. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. On le comprend très bien, ce qu'ils veulent dire. Parce que par analogie avec l'œuvre d'art, on voit qu'il y a une composante émotionnelle qui est très importante dans cette illumination, en quelque sorte, qui se produit. Bah, je pense que dans la création de l'œuvre d'art, c'est un petit peu ça. À la différence d'un problème de mathématiques ou de physique, l'artiste se pose des problèmes en permanence. Il les enchaîne les uns dans les autres. C'est-à-dire que il ne va pas créer la chapelle Sixtine de Michel-Ange comme on peut arriver à une équation de Newton ou de Bernoulli ou que sais-je. C'est pas une équation qui va être le produit final. Le produit final, c'est un emboîtement, une succession d'étapes de sélection esthétique, en quelque sorte, qui va commencer par une première esquisse. Prenez le cas de Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Il y a eu une exposition au Louvre qui a très bien montré ça, où ils ont recherché 10 ans avant l'achèvement, entre guillemets, du tableau, des précurseurs. Et on voit tous les essais et erreurs. Si vous voyez, il y a donc cet aspect qui a été aussi souligné par Gombrich, de essais et corrections, si vous voulez, qui va s'enchaîner. Donc, pour moi, l'œuvre d'art est quand même plus riche, à certains égards, dans sa création, qu'une œuvre mathématique, si vous voulez. Et parce que les mathématiciens ne se rappellent jamais toutes les étapes qui ont précédé le moment où ils ont fait leur découverte. Enfin, peut-être qu'ils s'en rappellent, mais en tout cas, ils ne les publient pas. Dans le cas des des artistes, les étapes qui ont précédé l'œuvre achevée. Au fond, on les a, il y a des témoignages. À l'exposition qu'il y avait eu sur Matisse, il y a ces très beaux tableaux sur de Matisse qui s'appelle « La blouse romaine ». Et la galerie Macht avait conservé des photographies de toutes les étapes qui ont précédé. Et on se demandait à un certain moment, mais est-ce que c'est quand même Matisse qui a fait ça ? C'est pas de sa qualité, évidemment. Ça a été rejeté par Matisse, mais on a conservé les témoignages. Et c'est seulement l'œuvre finale qui est montrée aux spectateurs. Donc la relation entre art et science, à mon avis, est très importante au niveau du mode de création, si vous voyez, sur l'origine de l'œuvre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si vous voulez, l'équation géniale ou le tableau extraordinaire, chef-d'œuvre universel, ne sort pas d'un seul coup d'un cuisse de Jupiter ou même de notre éminent cerveau. Notre cerveau est une machine à comprendre, une machine à créer, et procède toujours étape par étape. Et je pense qu'il faut être humble, très humble, devant les productions humaines, qui sont parfois pour nous tout à fait extraordinaires et uniques, tant scientifiquement que artistiquement, parce que simplement, elles sont le produit d'une machine que nous avons dans notre tête, qui résulte d'une évolution, mais qui a ses limites. Voilà.
Et c'est la même machine qui fait tantôt des équations et tantôt des œuvres
absolument,
d'art.
Absolument, mais elle est, si vous voulez, à la fois les éléments de base, les building blocks, si on pourrait dire, au niveau mental, ne sont pas les mêmes. Et l'objet de la création n'est pas du tout le même non plus. Je pense que ce qui était intéressant dans la démarche scientifique, pas simplement mathématique, mais des scientifiques d'une manière générale, c'est d'arriver à progresser dans la compréhension du monde qui nous entoure. Et cette compréhension doit satisfaire à des critères d'objectivité. Et objectivité, justement, fait que cette composante dite émotionnelle doit disparaître, qui existe, et doit disparaître devant l'universalité de la découverte faite. Une découverte scientifique doit être universelle, et doit être commune à tous les êtres humains, au-delà des systèmes de croyances, des philosophies et des pratiques de la vie quotidienne. Cette universalité, elle est intrinsèque à la connaissance scientifique. Dans l'œuvre d'art, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, la subjectivité joue un rôle très important. Hein, l'œuvre d'art, elle touche par ses émotions, Et néanmoins, elle peut atteindre à un niveau d'universalité par sa diversité, justement. Et ça, c'est ce qui va contraster, je pense, l'œuvre d'art de l'œuvre scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une vérité dans l'un et l'autre cas, mais ce n'est pas du tout le même type de vérité. La vérité scientifique, c'est donc le fait que c'est une objectivité qui est partagée, mais qui peut toujours être remise en question. Hein, ça, c'est quand même très important. Ce n'est pas une vérité immanente. Hein, ça, de mon point de vue, on procède dans la science toujours par des modèles qu'on crée et qu'on confronte à la réalité et qu'on voit si elle s'adapte et si c'est accepté par la communauté scientifique et l'ensemble des populations humaines. Dans le cas de l'œuvre d'art, je dirais que à travers toute la diversité et l'unicité, en quelque sorte, de chaque œuvre d'art, on va arriver à toucher des sentiments et des émotions qui sont elles aussi très diverses d'un être humain à un autre et lui apporter, je dirais, une certaine joie, une certaine participation à la communauté. Il y a une composante culturelle qui est très importante. Dans les mathématiques ou la physique, la composante culturelle, vous ne la voyez pas autre que celle de la culture scientifique. Dans l'œuvre d'art, elle va toucher parce que ça peut être la vie quotidienne, ça peut être les croyances, ça peut être les opinions, ça peut être les traditions qui réapparaissent, combinées à d'autres aspects de la vie de l'être humain et atteindre à une certaine forme aussi d'université par la diversité.
Toutefois, dans votre ouvrage, vous montrez à quel point, très longtemps, art et science dialoguaient, voire étaient davantage confondus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas de quand date la césure, peut-être l'époque romantique.
Dès la Renaissance, Mantegna était très préoccupé, lui, parce que justement, dans son art, il voulait reprendre évidemment des mythes, ne serait-ce que ceux du christianisme de l'époque, des vierges à l'enfant, que sais-je, dont la signification culturelle était très profonde. Mais il voulait le faire avec le maximum d'objectivité, si j'ose dire, à travers son art. C'est-à-dire, il voulait donner l'illusion, par exemple, de la perspective. Il a beaucoup fait travail mathématique sur cela. Souvent, les artistes sont de très grands mathématiciens. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition. Mais les mathématiques n'étaient pas un objet en soi. C'était simplement pour traduire l'illusion de l'espace à travers une œuvre artistique. Donc, la relation entre les deux était très, très riche. Et elle peut toujours l'être, d'ailleurs. Il y a certains artistes comme Pierre Boulez, par exemple, qui utilise les richesses des nouvelles technologies informatiques pour produire des sons nouveaux ou des organisations nouvelles dans leurs œuvres d'art. Mais là aussi, de quoi parle-t-on, hein? Est-ce qu'on cherche à faire progresser la science? On peut, par ces vagabondages dans d'autres domaines, on peut enrichir les mathématiques. Mais l'objet des mathématiques, c'est pas ça. Les mathématiciens, quand vous leur posez la question, eux, ils vivent dans leur monde, qu'ils croient d'ailleurs préformé pour beaucoup d'entre eux. C'est une totale illusion, parce que justement, on ne se rend pas compte que les mathématiques sont créées par le cerveau, et donc que l'aspect subjectif intervient dans la création mathématique. Mais l'objet des maths n'est pas là. C'est tout. Pour l'artiste, l'objet de leur production est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, à mon avis. Et en ce qui concerne la vie que les êtres humains peuvent avoir. Et je sais qu'en ce qui me concerne, par exemple, j'ai une activité scientifique au quotidien, mais vous avez mentionné l'aspect collection. Pour moi, la collection d'une œuvre d'art m'apporte une vision du monde très complémentaire de celle de la science et qui m'apporte beaucoup sur le plan de mon équilibre psychologique et de simplement de ma vie comme être humain.
Pour autant, deux remarques pour essayer de bien cerner cette notion de beauté ou d'esthétique. Vous établissez quand même un critère commun entre qui est celui de la parcimonie. Et qui serait commun quand même aux démonstrations scientifiques et aux œuvres d'art.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, mais c'est-à-dire que la parcimonie est une des règles, parmi celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, comme le consensus partium, l'accord des parties ou tout, l'originalité, etc. En ce sens que c'est un concept d'ailleurs d'Herbert Simon, qui est un scientifique très intéressant parce que il a essayé d'examiner les règles de l'économie sous l'angle psychologique. Donc c'est quelqu'un qui a déjà essayé de mettre en relation la science et le cerveau. Et quand il parle de parcimonie, il essaye de définir ce qui caractérise l'activité scientifique, mais aussi dans une certaine mesure l'œuvre d'art, c'est essayer d'exprimer le maximum à partir du minimum. C'est-à-dire faire des propositions vont être composées de quelques touches de couleurs ou de quelques équations simples qui vont décrire beaucoup et participer beaucoup dans la constitution de l'œuvre d'art. Donc le type même de la parcimonie, par exemple, ce sont les dessins de Matisse, qui, c'est d'un seul trait, il arrive à produire un visage ressemblant. Picasso a aussi fait ça pour le portrait d'Apollinaire, que sais-je. Et donc, il y a cette recherche de la condensation du sens avec le minimum de moyens graphiques, par exemple pour l'œuvre d'art, ou d'objets scientifiques, mathématiques, aussi simples que possible, pour produire une équation qui va expliquer beaucoup. Il y a effectivement ce point commun qui est important de souligner, et qui se retrouve même chez certains artistes, et ça peut paraître surprenant, comme chez Pollock, par exemple, où on a l'impression que tout est dans le désordre, mais pas du tout. C'est-à-dire, à travers cette écriture très désordonnée, il essaye de trouver des règles simples, évocatrices. Donc, c'est, je pense, une activité cérébrale très intéressante et qui, là, je crois, peut être considérée comme commune à la science et à l'art, parmi d'autres.
Parmi d'autres, vous évoquiez à l'instant le cas des collections, des collectionneurs. Vous êtes vous-même un collectionneur, oui. Et vous consacrez plusieurs chapitres de l'ouvrage à cette activité, en dressant là aussi des ponts entre la science et l'art. Vous apprenez qu'effectivement, au départ, la volonté de collectionner, mais aussi de classifier, de créer des catégories, d'ordonner à la fois en art et
le
en
monde,
science.
D'ordonner
le monde, voilà.
Oui, mais enfin, après tout, cette notion d'organiser le monde, c'est notre cerveau le fait dès le départ. Et c'est peut-être un des traits aussi, en plus, la signature de notre humanité, en quelque sorte. Et je vois qu'il faut concevoir le cerveau comme donnant du sens au monde. Et c'est pas le monde qui donne du sens au cerveau, si vous voulez. C'est évidemment le cerveau s'est construit au cours de l'évolution, ça c'est sûr, en relation avec le monde extérieur, mais il s'est construit en relation avec le monde pour arriver à, si j'ose employer le terme, comprendre le monde extérieur en y projetant des représentations, ce que j'ai appelé tout à l'heure des modèles. Et ça, c'est vraiment valable, aussi bien pour l'artiste que, et surtout pour le scientifique.
Donc c'est le cerveau, c'est Pygmalion, et le monde, c'est Galatée, alors, finalement.
Non, enfin, bon.
Non, j'exagère.
Et c'est un peu caricatural. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, ce que nous voyons du monde, c'est ce que nous projetons sur le monde. Parce que le monde était beaucoup plus complexe, et ce qui fait que, si vous voulez... certains philosophes et même certains mathématiciens, parfois, pas tous, pensent que nous n'arriverons jamais à comprendre, par exemple, la conscience. Il y a même l'éminent linguiste Chomsky qui fait partie d'un certain groupe de représentants des sciences humaines qui l'ont qualifié de mystérianisme. C'est considère que la conscience est un mystère et que l'être humain n'arrivera jamais, n'a pas les capacités cérébrales pour éclairer ce mystère. Moi, je suis très critique sur ce genre de position parce que, en fait, nous, dès le départ, nous savons que notre connaissance du monde est limitée. Dès le départ, c'est une vision proprement matérialiste du monde n'est pas du tout mystérianiste, elle est simplement... interrogatrice, c'est-à-dire essayons de comprendre. Il reste le monde est quelque chose d'inconnu pour nous. C'est pas pour ça que c'est un mystère. Il est inconnu, donc essayons de le comprendre et progressons dans cette compréhension du monde grâce à ces étiquetages, ces hypothèses, ces modèles qu'on va faire du monde extérieur. Et ce faisant, si vous voulez, on progresse dans la connaissance du monde. Donc pour moi, il n'y a pas de limite aux connaissances humaines. Hein. Il y a simplement les limites de notre cerveau à progresser dans la connaissance du monde. Et ces limites de notre cerveau, ben, on les a surmontées, comme nous demandait déjà Pascal, à réduire des problèmes complexes, c'est pour ça que j'aime pas la notion de complexité, ou difficile, etc., à des problèmes plus simples que notre cerveau est capable de traiter. Voilà comment nous fonctionnons. Et pour moi, connaissance de notre univers est une connaissance qui est nécessairement toujours limitée, toujours progressive, et dont on ne peut jamais prédire exactement l'avenir, mais dont on a confiance, ce qui nous permettra de saisir même la conscience de l'homme, sachant que ce sera une vision scientifique et que par nature, une vision scientifique n'épuise pas le réel. Et je crois que c'est l'illusion que ces mystérianistes ont de dire que notre cerveau n'arrivera jamais à comprendre, ce qui n'est pas une position de scientifique. Moi, j'ai jamais dit on n'arrivera jamais à résoudre ce problème. Hein, aucun mathématicien dira ça. À ce stade, nous n'avons pas encore résolu. Voilà. Donc, au lieu d'avoir cette position mystérienne, j'ai une position que j'appellerais scientifique, qui consiste à dire nous connaissons le monde d'une manière limitée, nous essayons tout le temps de franchir des limites et de progresser dans ces limites.
Ça pourrait fournir une très belle conclusion, mais je voudrais vous relancer sur cette nouvelle discipline que vous sentez poindre, vous appelez de vos voeux, qui serait la neuroesthétique.
Oui, enfin...
Comment la définir? Quelles sont ses perspectives?
Si vous voulez, je crois que les définitions de ce type, neuropsychologie, neuroesthétique, c'est vraiment sont des étiquettes, encore une fois, que notre cerveau...
C'est ça, le cerveau.
Que le cerveau met sur un certain nombre d'activités humaines et qui regroupent, si j'ose dire, un certain nombre de scientifiques. Alors, elles sont parfois utiles, si vous voulez, dans ce sens que elles permettent d'avoir une communauté qui a des exigences communes, qui a des financements communs, etc. Mais vous voyez, par exemple, avec ce genre de définition, il n'y a pas de section à l'Académie sur les neurosciences. Hein, il y en a une sur la biologie humaine, il y en a une autre sur la biologie cellulaire et animale, une autre sur la biologie moléculaire, dont je fais partie, mais il n'y a pas de section de neurosciences. Alors, vous voyez, ça veut dire que déjà, il y a une énorme artificialité dans l'utilisation de ce genre de définition. Alors, neuroesthétique, oui, on peut dire que c'est plutôt un vœu, si vous voulez, de faire en sorte que les chercheurs en neurosciences s'intéressent aux problèmes posés par l'œuvre d'art et leur perception. C'est simplement ça, ce que je vois. Et les neuroscientifiques ont toujours un peu tendance à rester dans leur propre discipline, hein, comme les mathématiciens restent dans les mathématiques et les physiciens dans la physique, alors que ma conviction est que la connaissance du monde va certainement progresser par la rupture de ces barrières entre disciplines et faire en sorte qu'il y ait des communications. Quand on parle du mot neuroesthétique, c'est simplement ça. Simplement que, si vous voyez, il y a d'un côté les neurosciences qui font partie des sciences exactes, et de l'autre, vous avez toute l'activité sur l'art, la réflexion sur l'art, qui fait partie, disons, des sciences humaines. Et ça paraît un sacrilège d'imaginer qu'il puisse y avoir des ponts qui s'établissent. Mais c'est exactement ce que nous souhaitons.
Et quand c'est la vocation de l'Institut.
Oui. Je pense qu'à cet égard, l'abbé Grégoire avait raison, parce que c'était lui qui a été un peu à l'origine, et qu'il avait justement une vision de l'universalité du savoir. Hein, c'est un héritage de l'encyclopédie. Hein, et c'est un héritage que d'ailleurs certains philosophes contestent, qu'il n'y a pas d'universalité de la connaissance et qu'on ne passe pas des mathématiques à la physique, à la biologie, à l'anthropologie et à la philosophie, à l'éthique, d'une manière naturelle. Ma position est évidemment très opposée à ça. Et à cet égard, la création de l'Institut, comme vous venez de le mentionner, a été faite intentionnellement, à l'époque, entre autres par la Convention et l'abbé Grégoire, pour rompre ces barrières. Et je pense que pour ma part, ça ne serait pas si mal et c'est ce que je pense certaines personnes ici veulent faire, de rompre les barrières entre sciences dites
Exact, humaine.
Ouais, je ne m'aime pas.
Oui, c'est difficile.
Hein. Fondamentale et sciences humaines. D'ailleurs, Catherine Bréchignac la veut faire un groupe de réflexion sur ce genre d'idées. Et je pense que c'est tout à fait salutaire. C'est ce que nous demandons. Et à cet égard, si ce livre peut participer à cette tentative de synthèse, justement, entre sciences de base et sciences humaines, pour moi, sont des sciences. Et je dirais, c'est la science. C'est la connaissance du monde.
Eh bien, écoutez, le livre y répond. Et je pense notamment à un chapitre qui est particulièrement fécond et émouvant. C'est celui où vous racontez votre attachement à assister au concert d'orgue dans l'église Saint-Eustache.
Ah, oui.
Et votre rencontre avec l'organiste et la façon dont vous avez pu échanger et vous nourrir mutuellement connaissances réciproques.
Absolument. Et ça, c'est une expérience que j'ai souhaité intégrer à ce livre, parce que pour moi, ce concert qui permet de bénéficier des qualités extraordinaires de l'orgue de Saint-Eustache, mais était pour moi une expérience. Toujours été pour moi une expérience personnelle très, très vivante et très émouvante. Parce que d'abord, j'ai été organiste moi-même. Malheureusement, je n'ai pas été très brillant dans le domaine. Bon, je n'ai pas pu vraiment travailler comme j'aurais souhaité le faire. C'était mon adolescence. Et le maître Jean Guillou a réussi à extraire de cet orgue, qui est déjà un chef-d'œuvre, des œuvres puissamment émouvantes et très personnelles et qui apportent pour moi une dimension qui est très complémentaire de mon activité scientifique. Je dirais que il y a ce côté de rationalisation, d'abstraction et aussi de compétition dans la science qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas du tout un monde exemplaire sur le plan des relations humaines. C'est la même chose que d'autres communautés. Et donc, c'est aussi pour moi une manière d'échapper à je dirais, cet aspect de compétition permanente, de personnalité toujours en cause, etc., qui existe de là comme ils existent ailleurs. Et de me retrouver dans un espèce d'univers totalement détaché de tout ça, qui est celui de l'œuvre d'art. Et ce qui était intéressant, c'est que ces concerts rassemblaient tout un public très diversifié. Et certains allaient ensuite entendre la messe qui avait lieu à Saint-Eustache. Et puis d'autres, comme j'en fais partie, on considérait qu'ils en avaient déjà eu suffisamment, si j'ose dire, avec le concert lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour moi, sur le plan symbolique, ça réunissait croyants et non-croyants autour de l'œuvre d'art. Et je trouve qu'à certains égards, vu tous les problèmes que nous avons, si vous voulez, je pense que, pour moi, l'œuvre d'art est en quelque sorte la métaphore de la laïcité, si vous voulez, en ce sens que chacun peut y participer, quel que soit son système de philosophie ou de croyance. Et à certains égards, je considère que l'art est une certaine forme de réconciliation. Et c'est pour ça que j'ai pensé sur le plan de la vie sociale et aussi de la vie d'aujourd'hui qu'on peut tous se retrouver autour de l'œuvre d'art.
Écoutez, c'est une excellente conclusion, mêlant donc la singularité des émotions de l'art et l'universalité qui nous réunit aussi. Merci beaucoup. En tout cas, une ultime précision, votre livre peut réellement contribuer à réconcilier ces mondes que l'on croit à tort comme séparés, ceux de la science et de l'art. Il se situe clairement au carrefour des deux, comme votre vie, vos recherches et, oserais-je dire, votre sensibilité. Merci beaucoup Jean-Pierre Changeux. Je rappelle les références de l'ouvrage La beauté dans le cerveau par Jean-Pierre Changeux aux éditions Odile Jacob. Merci encore.
Merci beaucoup.